9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC. RMC Soir et bienvenue pour discuter, pour débattre avec nous durant 3 heures. 32-16, c'est le numéro que vous pouvez composer pour intégrer nos discussions avec aujourd'hui Antoine Diers, consultant auprès des entreprises venues de Dunkerque. Bonjour mon cher Antoine.
Salut Alain et bonjour à tous.
Nous sommes avec Joël Dagosséry, qui est coach de vie. Bonjour ma chère Joël.
Bonjour à tous.
Et puis Didier Giraud, agriculteur, éleveur de boulevard en Saône-et-Loire et des nôtres aussi aujourd'hui. Bonjour Didier.
Salut Alain, bonjour à la France profonde.
Le carnaval de Dunkerque, ça y est, c'est fini parce que ça a 3 mois, il dure le
Il y avait la bande de Pit Gam ce week-end qui est la dernière bande où ça se termine. C'est le carnaval des barbecues, quoi. C'est la fin. Voilà. Mais effectivement, ça dure 3 mois. Il y en a qui tous les week-ends depuis trois mois.
C'est ça. Ouais.
Ah, tous les week-ends. Il y en a qui sont partis tous les week-ends pendant 3 mois. Donc on va enfin pouvoir passer à l'été à Dunkerque. On a eu un beau week-end. Ça va basculer depuis le carnaval. Ça va basculer sur les terrasses, sur la plage.
Bon, quel temps tu avais ce week-end là?
Il faisait très beau. J'étais avec quelques amis à Dunkerque. On a passé notre temps sur le
toi,
sable.
Tu fais chapelle?
Alors moi, je fais chapelle.
Faut expliquer ce que c'est.
Chapelle, c'est recevoir les gens chez soi quand la bande passe à proximité de chez toi. Voilà.
Bah, l'année prochaine, il faudra que tu nous invites.
Ah ouais.
On décolle.
Moi, j'ai
de Dunkerque.
J'avais deux grands buts dans ma vie de festailler, c'est de faire un jour les fêtes de Bayonne. C'est fait. Et le carnaval de Dunkerque, j'ai jamais fait.
Et ben, banco.
Faire rigodon autour du kiosque, ça doit être quelque chose.
Et je vois bien ce qu'on va faire. On va teindre ta moustache, à mon avis, en orange. Et on mettra un petit truc, ça va être parfait.
Et Joël, attends-toi aussi. Il faudra que tu viennes avec nous.
Ah, mais moi, je viendrai.
Une petite teinture.
J'ai déjà été à Dunkerque.
Tu déguises en blonde, Joël.
Je parle de carnaval.
Tu déguises en blonde.
Je viens découvrir.
Allez, banco.
Oui, bah, ça, c'est
banco
les jours.
Dans une petite année.
Allez, les amis, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les Grandes Gueules? On va commencer en évoquant les fonctionnaires. Et alors, notre ministre de la fonction publique, M. Guérini, qui veut lever un tabou.
RMC, les Grandes Gueules.
Mais avant toute chose, je voulais faire une mise au point parce que lundi, dans les GG, dans les Grandes Gueules, avec Charles Consigny, avec Barbara Lefebvre notamment, des propos déplacés ont pu être tenus au sujet des gens du voyage. Alors ce n'est pas l'esprit des Grandes Gueules, on peut discuter, on peut débattre, mais sans stigmatiser, sans vexer une population. Donc là, je vais vous présenter mes excuses à ceux que les propos de Charles ou de Barbara ont pu choquer ou blesser. C'est aussi de mon devoir dans ces cas-là de maîtriser les débats et de faire attention aux propos tenus par les uns et par les autres. Le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, dit vouloir lever le tabou du licenciement dans la fonction publique. Alors en fait, il faut savoir que le statut de fonctionnaire protège d'un seul motif, qui est celui du licenciement économique. Mais il existe quand même des motifs qui permettent de se séparer d'un fonctionnaire. Le refus de 3 postes après une disponibilité, l'insuffisance professionnelle ou l'abandon de poste. Le problème, c'est de savoir comment caractériser cette insuffisance. Il y a eu seulement 13 licenciements pour insuffisance professionnelle en 2023, c'est-à-dire dans la fonction publique d'État qui regroupe les ministères, les administrations, et c'est quand même plus de 2,5 millions d'agents. Alors, lever le tabou du licenciement dans la fonction publique, pour ou contre, est-ce qu'il a raison, Stanislas Guérini? 32-16 pour en discuter avec les Grandes Gueules. Antoine, tu es d'accord?
Oui, je suis entièrement d'accord. Et c'était un projet de loi qui a été dans les cartons d'Emmanuel Macron à son élection. C'est-à-dire que la première élection, je veux
2017.
Dire, quand il est arrivé comme président de la République, il y avait un projet de loi tout ficelé, tout prêt, pour lever ce tabou, pour pouvoir se séparer de fonctionnaires. Et moi, je vais même au-delà. Je pense qu'on doit pouvoir se séparer de fonctionnaires au-delà des questions de licenciement pour motif disciplinaire, etc. On doit même faciliter le recrutement de contractuels, parce qu'aujourd'hui...
C'est déjà le cas, hein, quand alors, même, les contractuels.
Ouais. C'est hyper compliqué. La loi, elle est toujours comme ça. Moi, j'ai bossé pendant de nombreuses années en mairie. Eh bien, tu dois prouver que tu n'as pas pu trouver un fonctionnaire pour le poste avant de recourir à un contractuel de la fonction publique. Eh bien, moi, je pense qu'on doit lever entièrement tous les verrous sur le recrutement et le départ des fonctionnaires. Et puis, il y a une dimension intéressante, c'est enfin la rémunération au mérite dans la fonction publique. C'est-à-dire que il y en a un paquet qui font pas grand chose, mais j'en ai croisé aussi beaucoup des fonctionnaires, notamment dans les mairies, qui bossent beaucoup et qui devraient être remerciés.
Oui, mais justement, si tu veux davantage rémunérer Voilà, il faut être dans l'ordre. Ouais. Ceux qui travaillent beaucoup, il faut pouvoir te séparer à ce moment-là
de ceux qui
de ceux qu'on appelle aujourd'hui les fonctionnaires. Tu sais, comme les voitures tampons, c'est-à-dire ceux qui restent à leur poste, qui en font le minimum et dont on n'arrive pas à se séparer.
On a 3 à 4 fois plus de fonctionnaires en France qu'en Allemagne. Pour à peu près la même population, etc. Donc effectivement, réduisons le nombre de fonctionnaires et payons mieux ceux qui restent.
Joël Dagosséry.
Non, même si le concept d'emploi à vie et de fonctionnaire me dépasse complètement, oui, ce statut me dépasse complètement. Je trouve que ce gouvernement a une facilité quand même à pointer du doigt les mauvais Français, ceux qui devraient travailler au RSA, ceux qui devraient être licenciés. Alors, même s'il a raison, et moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Antoine. Mais quand même, je trouve que l'angle d'attaque en fait du problème, je le trouve vraiment, vraiment mauvais. Je préfère qu'on parle de mérite.
C'est comme si on montrait du
doigt complètement,
toute une corporation.
Complètement. Voilà, oui. Je préfère qu'on me parle de mesures qui vont reconnaître le mérite des bons fonctionnaires et bien sûr, en conséquence, peut-être reconnaître aussi ceux qui ne travaillent pas bien et peut-être les sortir, mais qu'on me parle de mesures concrètes. Comment on fait dans la fonction publique qui a un si mauvais management, aller interroger toutes les personnes qui sont dans la fonction publique. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui travaillent pour l'État et qui sont au bord du burn-out avec des managers qui n'en sont pas. Voilà. Donc, comment on fait? S'il m'avait dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est reconnaître le mérite des bons fonctionnaires. C'est important qu'ils soient reconnus, non seulement dans leur salaire, mais dans leur avancement. Et voilà le type de mesures qu'on va mettre en place pour ça. Et bien sûr, à contrario, si on a des mauvais fonctionnaires, il faudrait pouvoir aussi s'en séparer. Mais non. Il vient directement te dire, il y a un tabou, on peut pas les licencier. C'est pas vrai, on peut les licencier.
Et mais tu as vu les motifs de licenciement.
C'est hyper complexe, hein.
C'est complexe. L'insuffisance. Je suis d'accord. Comment tu prouves l'insuffisance professionnelle?
Oui, et comment il prouve la suffisance? Comment
il prouve? Quelqu'un ne travaille pas suffisamment.
Oui, mais qu'il me parle de comment il trouve la suffisance. Comment il trouve, comment il arrive à détecter les bons éléments. Qu'est-ce qu'il met en place pour les récompenser? Qu'il parle de ça d'abord. Parce que, en fait, je suis d'accord qu'on doit licencier les mauvais fonctionnaires, mais ce gouvernement a une tendance à vouloir nous penser qu'on est autoritaire, nous, ça va sévir avec nous, on va licencier par là, on va interdire par là, mais toute la communication n'est que ça. Il n'y a pas une seule communication qui soit positive. Donc moi, sur la mesure, je la comprends et je suis plutôt d'accord parce que ce concept me dépasse. Mmh. Et j'ai regardé en Allemagne, ils sont 1,5 million de fonctionnaires, quand nous, on en a 1 million de plus pour la même population. Va m'expliquer pourquoi. Par contre, je trouve que la communication du gouvernement, elle est toujours négative et ça, j'en ai un petit peu assez.
Didier. Je crois que tu trompes.
Ah bah.
Je crois que tu trompes parce que cette réunion, elle avait justement une entrée. Mmh. Comment récompenser et revaloriser les salaires des bons fonctionnaires? Et le pendant de ça, c'était aussi pouvoir licencier.
Pourquoi c'est ça qui ressort?
Guérini l'a dit ce matin dans le Parisien, les syndicats ce matin sur RMC. On dit, il n'en a pas été question hier dans la réunion.
J'ai quand même un doute.
Mais
tu peux aussi faire dire aux choses que ce que tu veux entendre, quoi. Si la réunion, elle avait vraiment comme but de chercher à la fois à promouvoir les bons éléments et à virer les mauvais éléments, moi j'y étais pas. Mais les syndicats, moi j'ai écouté un mec de FO ce matin, il a dit nous on n'y était pas, on a fait la politique de la chaise vide parce que comment veux-tu revaloriser les bons quand on est dans une enveloppe close? Parce que c'est ça le problème. Quand un manager de la fonction publique voudrait bien mettre de l'avancement à un très bon élément, il faut qu'il repique des sous sur un mauvais, on va dire, parce que l'enveloppe, elle est au 1 pour 1. Moi, je pense que le vrai travail, ça serait plutôt de dégager des pas entiers de la fonction publique qui ne servent à rien pour remettre des bras là où il en manque, dans la sécurité, à l'éducation nationale et dans les hôpitaux. Et là, on ferait du vrai bon travail. Après, tu peux pas... Si Guérini il a fait ça, c'est un âne. Mais tu peux pas dire on va licencier les mauvais si en contrepartie tu dis pas on donne les moyens à celui qui est chef dans une administration quelle qu'elle soit de valoriser les bons éléments.
Mais Didier,
je pense que les deux ils vont ensemble.
Je suis sûr qu'ils ont dû l'évoquer, mais tu vois bien que la communication du gouvernement qui a besoin de montrer qu'il est autoritaire, qu'il prend la France les problèmes de la France à bras le corps, c'est une communication qui nous montre l'autorité, l'interdiction par-ci et par-là et qui ne communique pas positivement sur les fonctionnaires.
On peut l'entendre.
Le fait que cette phrase soit ressortie,
je vois aussi qu'avec ce gouvernement, les gens ils ont des oreilles qui n'entendent que ce qu'elles veulent.
Moi, je crois plutôt qu'ils font exprès de mettre en avant une certaine partie de leur travail parce qu'ils ont besoin de montrer une image de dureté, une image de prise en main parce qu'il ne leur reste plus que ça.
Je pense que le vrai problème pour le résoudre, c'est ça. C'est d'abord dégager ce qui sert à rien dans la fonction publique. Tu vois, par exemple, moi, je connais plus la fonction territoriale, la fonction publique territoriale. Je sais, par exemple, que des mecs qui sont dans l'alternance politique, ils disent, il nous faut un mandat pour dégager tous ceux qui nous font chier et mettre en place des gens qui roulent pour notre politique. Parce que il y a dans les départements des gens qui sont des agents territoriaux qui font eux aussi de la politique pour leurs élus. Et ceux-là, quand il y a de l'alternance politique, ils s'accrochent à leur poste, ils se mettent en maladie, ils se mettent en arrêt et il leur faut un mandat pour dégager tout le monde. C'est quand même aussi une vraie sclérose. Quand on nous annonce, quand on nous vend le regroupement des régions pour faire des économies d'échelle et qu'à côté de ça, on garde tout le monde parce qu'on ne peut pas les licencier. On garde tout le monde et on en prend des nouveaux qu'on met au milieu. Enfin, franchement, c'est de la foutaise, quoi, ça.
On va passer par le 32-16, écoutez Sandrine qui est avec nous. Bonjour Sandrine.
Bonjour messieurs dames.
Bienvenue, vous êtes dans l'Ain. De quel côté dans l'Ain? Quelle commune?
Alors, Replonge.
Ras de la Saône-et-Loire,
c'est ce que j'ai dit. Ras de la Saône-et-Loire, on est d'accord.
Comment vous le situez, donc, au ras de la Saône-et-Loire?
Au ras de l'autre côté de la Saône. Oui, c'est ça.
Alors, ma chère Sandrine, est-ce que vous êtes concernée? Est-ce que vous êtes fonctionnaire ou pas?
Oui, je suis fonctionnaire de la fonction publique hospitalière.
Depuis combien d'années?
Oula, depuis plus de 20 ans.
D'accord. Avec quel statut, alors?
Alors, je suis titulaire.
D'accord. Mmh. Et quand vous entendez le ministre nous dire, il faut pouvoir virer du monde, parce que c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous en dites?
Alors, pour ma part, je pars du principe qu'il faudrait une équité entre le privé et le public. Mmh. Nous, c'est difficilement quantifiable ce qu'on offre à nos patients parce que c'est du service. Alors après, moi, je suis pour le fait de pouvoir être licencié si on commet une faute, comme dans le privé, pareil.
Ça, c'est déjà le cas, C'est déjà le cas.
Oui.
Enfin, 13 en un an.
Pour insuffisance professionnelle. Mais tu peux être licencié pour faute grave et ce qu'on appelle.
En gros, ça n'arrive jamais, quoi.
Alain, honnêtement, ça n'arrive jamais.
Ça s'appelle la révocation.
Mais oui, mais ça prend des années. Il y a recours, les syndicats défendent.
Mais
etc.
Sandrine, est-ce qu'autour de vous, y compris dans la fonction publique hospitalière, là où vous êtes, vous dites, il y a des gens, c'est pas possible, il faut les sortir? Dites-moi, Alain.
J'ai écouté votre consoeur journaliste qui parlait. Effectivement, nous, on a un souci d'encadrement réel. Et je pense qu'effectivement, il y a trop de gens pour faire certaines choses. Et je pense qu'on est trop nombreux pour certaines fonctions. Moi, je pars du principe que dans les soins, il faudrait plus de monde ou alors réorganiser pour qu'on puisse être à la hauteur de notre don de soins. Moi, j'ai fait un burn-out il y a quelques années et je sais combien c'est difficile et je me dis que si on enlevait certaines personnes pour que le travail soit mieux fait et mieux encadré, ça serait peut-être salutaire.
Sandrine dit plus clairement, le problème de l'hôpital, c'est les cadres et les administratifs improductifs. C'est ça le problème de l'hôpital. Et il manque de bras pour faire les soins.
Je suis d'accord avec vous.
Ah voilà, c'est tout simple à faire, ça. Hein.
Mais tu vois, là, il a pointé du doigt les mauvais fonctionnaires. Mais c'est eux, les mauvais fonctionnaires. C'est les plus grands mauvais fonctionnaires de ce pays.
Oui.
Ils nous avaient promis.
Ils sont quand même aux manettes depuis.
Mais complètement. Ils nous avaient promis moins de fonctionnaires. Ils ne font qu'étendre leur champ d'action. Si tu regardes en Allemagne, c'est pas seulement qu'ils ont moins de fonctionnaires. L'État est engagé dans moins de domaines
revenir
de notre
sur
vie.
Le régalien.
Donc, ils ont qu'à d'abord se regarder un petit peu, regarder là où ils pourraient se désengager, et tu vas voir, ça va fondre tout seul. Mais non, ce qu'ils font, c'est de dire c'est votre faute, vous êtes pas bon, on va vous licencier parce qu'on a besoin de plus d'argent pour payer les bons. Mais non, si tu veux plus payer les bons, écoute, lâche du lest un petit peu.
Ils ont réussi à recruter 60 000 nouveaux fonctionnaires en 2023.
Collectivités territoriales essentiellement. Mais Sandrine, du coup, est-ce que ça crée là où vous êtes dans l'Ain, ça crée des frustrations, ça crée de la tension aussi au travail ou pas?
Alors moi, je pense que oui, on travaille en équipe et je pense que oui, il y a réellement entre ceux qui pensent bien faire, ceux qui pensent trop faire et ceux qui pensent ne rien faire, ça crée forcément des tensions. Je pense qu'il faudrait réintégrer le travail d'équipe, mais dans le respect de chacun. Il faudrait aussi écouter le fait que effectivement, il faudrait plus de bons fonctionnaires avec moins, plus de qualité. On s'efforce dans l'éducation, dans la justice, dans la santé, qui sont trois piliers nécessaires à une société saine, de faire plus, mais en fait, on fait mal.
Je pense. Parce que vous faites plus avec moins.
On fait plus avec moins, déjà. On a énormément de glissements de tâches. Et je pense réellement que si on se posait la question, au lieu de taper sur les doigts des fonctionnaires, il en faut. Mais on en a beaucoup dans l'État, par exemple. On en a plein qui seraient utiles à autre chose qu'à être fonctionnaire.
Peut-être. Donc ça veut dire, c'est peut-être aussi une répartition des effectifs aussi. Parce que tout le paradoxe, c'est quand vous regardez ce matin en préparant le sujet, je tapais fonction publique recrutement. On continue de recruter dans la fonction publique, mais on a besoin de terrain, en fait. Et on n'arrive pas à trouver du terrain. Or là, où c'est presque, si vous voulez, saturé, c'est dans les strates administratives et les strates intermédiaires. Aujourd'hui, on a massivement recruté sans trop savoir si c'était efficient, si on mettait les gens aux bons endroits. Sandrine, je vous remercie de ce témoignage. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Sandrine est plutôt pour, dit-elle, pour que ça permette d'avoir davantage de gens de terrain, par exemple, elle, dans la fonction publique hospitalière, pour ou contre le licenciement des fonctionnaires. Vous venez en parler avec nous au 32-16. Je rappelle que ce qu'on appelle faute grave, qui est motif de licenciement dans le privé, ça existe aussi dans la fonction publique, et ça s'appelle révocation, et ça concerne quelques dizaines d'agents chaque année. Alors, est-ce qu'il a raison, Stanislas Guérini? Il faut arriver au licenciement des fonctionnaires, oui ou non? 32-16, venez en parler avec les grandes gueules.
RMC,
9h30,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. Nous sommes avec Antoine Dierce, qui est consultant auprès des entreprises, avec Joël Dagosséry, qui est coach de vie. Les amis, si vous voulez tester les sensations fortes à l'Europa Park, à côté de Strasbourg, qui a été élu 8 fois meilleur parc d'attractions du monde, l'Europa Park, qui est dans le top 3 des parcs d'attractions les plus visités en Europe, eh bien les amis, c'est le moment. On vous offre un séjour de 4 personnes pour 4 personnes à l'Europa Park, 2 jours, avec les entrées, la nuitée dans l'hôtel 4 étoiles, le petit déjeuner et puis les places, bien sûr, 2 jours de sensations fortes. Il y a 100 attractions au total, 13 grands 8, et vous avez en plus un parc aquatique. Alors,
on donne envie.
Ça donne, oui.
Ouais, mais non, moi j'adore.
Sensations fortes, t'aimes bien?
Ah, moi j'aime bien. J'aime bien me faire peur. Après, peut-être maintenant que je vieillis, peut-être que c'est un peu moins, mais j'aime bien me faire peur.
Monsieur Antoine Nierce.
Eh ben moi, c'est le parc d'attractions de mon enfance, parce que mes grands-parents étaient en Alsace, et donc c'était « Allez, on vous emmène à Europa Park !» Et donc j'ai pas mal de souvenirs là-bas, mais c'était il y a une quinzaine d'années, et ils ont encore développé plein d'attractions énormes, hein. C'est vraiment un parc énorme.
Et Didier, les grands 8 et les loopings, c'est pas trop son truc. Enfin, chacun...
Après, moi, je suis un enfant du PAL.
Ah oui, c'est vrai. Chacun aime les sensations à sa manière. L'Europa Park, il est pour vous. Vous m'envoyez RMC par SMS au 732-16. RMC par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. Un séjour pour 4 personnes à l'Europa Park. Ça ne se rate pas. Et puis le gagnant est tout à l'heure en direct avec nous dans les GG, dans les grandes gueules. Revenons à ce que veut faire Monsieur Stanislas Guérini. Mes respects, Monsieur le ministre. Il s'occupe de la fonction publique. Et il veut
licencier les fonctionnaires.
Le respect de la fonction.
Ah bon.
Loïc, bonjour.
Salut monsieur. Bonjour.
Bonjour Loïc. Vous nous appelez d'où?
J'appelle d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, le plus beau département de France.
Agen. Ouais. Vous n'avez pas l'accent du côté d'Europa Park et Strasbourg?
Non, évidemment, on est plutôt aux antipodes.
Alors, mon cher Loïc, est-ce que vous êtes d'accord avec votre ministre?
Du tout. Je pense que monsieur Guérini fait plutôt du clientélisme plutôt que s'attaquer aux problèmes de fond. Dans le sens où on voit bien que le statut de fonctionnaire n'est pas quelque chose qui est attrayant ou sexy, c'est pas un motif de recrutement dans la fonction publique hospitalière. Notamment, on voit les infirmières, les médecins qui partent beaucoup vers l'extérieur et vers le privé parce que financièrement c'est beaucoup plus attractif. L'émission d'une infirmière en dialyse à l'hôpital public ou en clinique privée, je pense qu'elles sont les mêmes. Seulement, le salaire lui est différent. Alors je dis pas qu'il faut augmenter tout le monde parce que c'est des débats qui me dépassent à moi, qui dépassent mes connaissances.
Ouais.
Mais je pense qu'on s'attaque pas au fond du problème.
Et si le fond du problème, c'est le salaire, c'est l'attractivité, c'est ça, c'est ce que vous dites.
Je pense.
Mais je crois, mais là, il y a trop de monde. Est-ce que vous pensez pas, Loïc, que les deux sont liés?
Exactement. Bien sûr.
Est-ce que pour revaloriser les salaires de ceux qui bossent dans la fonction publique, et vous en faites partie à l'hôpital, je le redis, à l'hôpital, à la justice, dans la sécurité, à l'éducation nationale, il manque de bras. Pour arriver à faire ça et rendre le truc attractif, est-ce qu'il faudrait pas dégager ceux qui ne servent à rien dans les musées, dans les, enfin, il y a quand même plein d'endroits où la fonction publique, elle est pas efficace. Quoi.
Allez-y.
Évidemment, mais je me garderais bien de dire que mon collègue, je sais pas moi, aux admissions ou à la sécurité ou dans un autre poste, il est moins utile que moi. Je pense qu'on est une grande chaîne et qu'on est tous utiles au patient qui est dans le lit, en fait. Après, il est évident que on manque de personnes aux postes clés, aux soins, dans tout ce qui est petite main. Donc Napoléon a perdu les guerres parce qu'il avait trop de généraux et plus de soldats. Quand on a trop de monde qui décide, on décide pas forcément bien et on décide pas forcément pour l'intérêt public et l'intérêt du patient. Après, pour pouvoir, je disais à votre standardiste tout à l'heure, je pense qu'il y a d'autres leviers pour sanctionner les mauvais agents. Parce que celui qui fait pas attention, on devrait avoir la possibilité de faire des retenues sur salaire. Par exemple, l'entretien du matériel, l'outil informatique. Parce que ceux qui payent l'outil informatique, les véhicules, les bureaux, ainsi de suite, c'est le denier public. Et le denier public, il est national. C'est l'argent de tout le monde. Mmh. Donc là, il devrait y avoir des leviers pour pouvoir... sanctionner les personnes.
Ce que vous dites, on l'entend. Vous dites exactement ce que nous disait votre collègue de la fonction publique hospitalière il y a quelques minutes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu une espèce de machine folle, mais de machine qu'on n'arrive pas plus à maîtriser, à savoir qui fait quoi et où. Hein, et c'est ça aujourd'hui le problème.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Vous comprenez?
Parce que
Pascal Péri faisait un bouquin il y a 20 ans sur les cadres improductifs de la SNCF, mais il y a rien de changé depuis.
Joël Dagosséry, Loïc.
Moi, je pense qu'il y a une différence entre virer ce qui n'est pas utile et virer les mauvais. Parce que pour moi, ce qui n'est pas utile, ce serait plutôt de regarder est-ce que l'État a besoin d'engager un paysagiste fonctionnaire. Enfin, voilà, ça, je me dis, c'est pas utile d'être au service de l'État pour s'occuper des espaces verts.
Ou d'entretien des voitures.
Exactement. Ça veut pas dire que c'est un mauvais élément. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que, est-ce qu'il parlait des mauvais éléments ou de utile dans le sens, est-ce que on a besoin d'avoir des fonctionnaires dans ce type de métier-là?
Je crois qu'il était dans mauvais éléments.
Voilà. Donc, si c'est mauvais élément, je suis au regret d'annoncer quand même.
Tu peux avoir les deux. Tu as mauvais et inutile.
Ah oui, mais donc, à ce moment-là, je crois qu'il parlait
de... C'est les deux qu'il faut cibler aujourd'hui. Il faut faire une vraie
évaluation. Mais je crois qu'il parlait
de... Il faut faire de la RH. Mais. De la ressource humaine aujourd'hui dans la fonction publique.
Sauf que s'il
ne sert à rien et dans ces cas-là.
S'il ne parlait que des mauvais éléments, j'ai bien peur que ça ne rétablisse pas les comptes. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de la gestion à la petite cuillère. C'est pas en virant les mauvais éléments que tout d'un coup.
Toi, tu voudrais que ça soit à la louche.
Mais non, c'est pas ça. C'est qu'il faut vraiment, comme tu as dit, être sur les deux trucs. C'est-à-dire, est-ce que ce métier-là, c'est utile qu'il soit fonctionnaire et en même temps, du mauvais élément, mais pas que les mauvais éléments.
Antoine, merci à Loïc d'avoir été dans les.
Moi, j'ai un souvenir quand je bossais dans les mairies, c'est la période des entretiens annuels. Chaque chef de service doit recevoir ses agents, leur faire un entretien annuel, etc. Et on avait réussi avec un maire pour lequel j'ai travaillé à donner une augmentation pour tous parce que c'est obligatoire, mais on avait réussi à conserver au maximum une augmentation individualisée. Et on avait un paquet de chefs de service qui nous remontaient des évaluations identiques pour tous. En refusant entièrement de se mouiller sur celui qui travaille plus, etc. Et donc,
parce qu'il avait peur de quoi? Du conflit, du syndicat derrière qui allait lui tomber dessus.
Exactement. On en parlait, il n'y a pas de management. Mmh. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas réglé dans la fonction publique, on n'arrivera pas à mettre en valeur les bons. Et ceux qui, dans le service, travaillent beaucoup, et le chef de service, à la fin de l'année, met la même note à tout le monde sur l'entretien annuel pour donner les mêmes primes à tout le monde, celui qui travaillait beaucoup, il a compris que pour l'année prochaine, il va en faire un peu moins. Et donc, il y a urgence à faire sauter ce levier du défaut de management pour permettre aux bons de se révéler. Et on l'a dit, hein, ça passe par le fait de faire partir les mauvais, et ça passe par le fait de reconnaître les bons. Et aujourd'hui, les bons n'arrivent plus à émerger dans la fonction publique. Donc je pense vraiment qu'on a un souci sur ces entretiens annuels où on n'arrive pas à valoriser celui qui bosse.
Non mais je pense que ce travail de tri entre le bon grain et l'ivraie, c'est que du management, c'est que de la RH et c'est faisable. Mais je pense qu'il y a un autre travail qui est concomitant. Et ça, celui qui sera élu et qui fera ça, il est pas né, à mon avis. C'est le mec qui va dire, voilà, voilà, dans tout ce que l'État fait, ça c'est régalien, on le conserve. Ça c'est des missions qui ne sont pas régaliennes et on le balance au privé. Et je pense que le vrai travail d'économie pour l'État, ça devrait être celui-là, quoi. Ça devrait être, à un moment donné, de se recentrer sur les missions régaliennes, de les revaloriser en salaire, qui ferait que t'aurais de l'engouement. Parce que aujourd'hui, ce qui est vraiment utile à l'État, que ça soit policier, instituteur, ou infirmière dans les hôpitaux publics, c'est quand même des métiers où tu peux les recruter, quoi. Hein. Tu sais, si tu veux pouvoir recruter, faut rendre le métier attractif, faut dégager le reste, quoi.
Mais pour dégager là, tu peux même avoir une vraie politique de RH qui est une politique de départ à ce moment-là, c'est-à-dire de dire à des gens on ouvre un guichet dans la fonction publique. Alors, ça peut coûter un peu de rond, mais on ouvre un guichet. Comme voilà, il y en a peut-être certains d'entre vous, en passant par les RH, qui sont fatigués d'être au même poste depuis 25 ans, depuis 30 ans, qui en ont assez, qui ont peut-être des envies de reconversion. Tu sais ce que c'est, ma chère Joël.
Mais ça enlèvera pas. Il y a des branches sur l'État, sur l'appareil d'État, il y a des branches à couper. Il y a des trucs qui ne servent à rien. On parlait, par exemple, des gens qui sont paysagistes, les jardiniers. Les jardiniers qui sont au service des collectivités locales, des collectivités territoriales et de l'État.
On est d'accord.
Ces gens-là, est-ce que ça peut pas être des missions déléguées? Est-ce que ça doit être des fonctionnaires? Non.
Tu retombes sur un autre problème, c'est que l'État est un très mauvais gestionnaire de ses délégations de services publics.
Exactement. Ah.
C'est-à-dire que on a une difficulté, c'est qu'on n'arrive même pas à établir de bons contrats, de bons appels d'offres. Ah ouais. On paye bien souvent beaucoup trop cher la mission. On contrôle pas, etc. Donc oui. Il faut aller vers ce que tu dis, mais il faut se doter dans nos collectivités et au sein de l'État de spécialistes de la délégation de services publics, de spécialistes des contrats publics qui puissent manager ces contrats.
Et tu sais que le problème, c'est encore la rémunération, parce qu'en fait, les bons, les bons, ils n'ont pas envie de venir toucher 1700 euros par mois. Ils ont envie d'aller dans le privé et toucher 3000 euros.
Donc tu gardes les mauvais.
Et quand tu fais l'entretien, tu réponds au bonhomme qui gagne 2-3 fois plus dans le privé, tu lui dis « je pourrais rien faire parce que je dois vous positionner sur la grille indiciaire et donc selon votre âge,
etc. » Tu vois, ce matin, il y avait aussi
donc tu le recrutes pas.
Il y avait déjà des syndicats qui commençaient à dire « si ça doit être comme ça, si ça doit se passer comme ça, on va faire grève. »
Et en plus, le préavis est déjà posé pendant les JO, donc ça va bien se passer.
Ça va courir, mais en fait, le problème, c'est que M. Guérini, à ce moment-là, il faut qu'il mette tout de suite les mains dans le cambouis. Enfin, c'est pas comme s'il venait d'arriver, Stanislas Guérini, à la fonction publique.
Plutôt que de faire une annonce.
Moi, si tu veux, je pense que cette annonce, et alors c'est encore plus cynique, c'est-à-dire qu'elle sera suivie de rien.
Tu sais pourquoi?
Parce que comme on a les agences de notation qui doivent délivrer peut-être un carton jaune à la France, donc là, il faut donner un signal. Oh, on va s'occuper de la fonction publique, vous allez voir, on va virer. Mais il va rien faire, Guérini. Il va rien faire. Il est à la simplification de l'État, il est à la fonction publique déjà dans le précédent mandat. Vas-y, mon garçon. Vas-y. Ouvre le guichet. Fais de la RH, responsabilise tes administrés, dis-leur les gars, dans la fonction publique territoriale, on a recruté en 25 ans, on a recruté plus 58%. Regardez où il y a des doublons, où il y a des triplons, comme tu le disais tout à l'heure. Moi, bêtement, dans le sud, j'ai été confronté des fois entre la métropole et les communes. Ils se renvoient la balle, tu ne sais plus qui fait quoi. Et toi, tu te retrouves
coincé. Ils font la même chose.
T'es comme un con. T'attends une décision et tu dis les gars, ça fait 2 mois. Est-ce que ça a avancé le dossier? Ah mais monsieur, il faut voir avec le service B. Et le service B, il te renvoie vers le service A. Et tu dis mais alors qui
c'est
prend
la
décision?
Qui
tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors Guérini, vas-y mon garçon, t'es ministre depuis longtemps, t'es dans la Macron. Allez hop.
Non mais ils vont
au charbon. Sinon on vire Guérini. On peut faire des économies aussi. On vire monsieur Stanislas Guérini
pour insuffisance professionnelle.
Ça peut se trouver aussi. Je sais pas ce que vous en dites.
Je me charge du petit rapport qui va bien.
Mais c'est vrai que dans les collectivités territoriales et les régions,
c'est facile de les accuser, Alain.
Moi j'ai l'exemple. Tu vois, je n'accuse pas.
C'est l'exemple que j'ai appris l'autre jour.
Confronté, ça s'appelle de la gestion de ressources humaines. Ça s'appelle de la RH. Il y a des choses aussi qui sont en train de se passer. Entre autres, les conseils régionaux récupèrent des missions autour de l'économique aujourd'hui. Donc, ils sont obligés... l'exemple que j'ai déjà pris, mais je vais le reprendre, la politique d'installation des jeunes en agriculture, c'était une politique d'État. C'est en train de devenir une politique... Enfin, c'est devenu une politique régionale parce que les conseils régionaux l'ont revendiqué. Aujourd'hui, l'État...
a coupé les budgets, leur a dit démerdez-vous, embauchez les gens capables d'instruire les dossiers, de faire. Donc le temps que la région mette ça en place, ça prend des plombes. Ils embauchent des gens, mais l'État n'a pas viré ceux qui faisaient ça au service de l'État. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as des collectivités territoriales et régionales qui se retrouvent avec des missions, qui doivent embaucher pour faire les missions, qui n'ont pas forcément les budgets, mais l'État a pas viré ceux qui faisaient ça à l'État, quoi, au niveau national avant. Et je pense que un des problèmes, c'est ces doublons-là, quoi. Hein. Oui, c'est sûr. Que les gens, on les recase, on les repositionne, ils font pas grand-chose, ils sont dans un placard, mais les missions qu'ils avaient et qu'ils assumaient, elles sont transférées à la région, au département, quoi. Hein.
Et pire, sur certaines missions ponctuelles, genre organiser l'anniversaire de tel truc, etc., ils vont recruter un fonctionnaire spécifiquement pour cette mission qui dure 6 mois, et à la fin, ils sont là avec le fonctionnaire.
On le garde.
Bah alors, on va le mettre où, etc. Ouais, bah on va le garder. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Merci à tous.
C'est un cliquet. C'est une marche en avance.
Exactement.
On a une petite consultation, les amis. On va regarder pour contre le licenciement des fonctionnaires, on vient d'en parler là pendant 20 minutes, bah pour à 70%. Contre à 29, oui. 29, ça peut être une minorité de blocage aussi. Hein.
Non, mais je crois qu'on peut pas dire que ça.
Allez, dans un instant, on s'en fout pas, des bouteilles de vin à 2 euros ou moins qui sont toujours dans les rayons de Carrefour, les femmes qui passent 22 heures par semaine seules avec leurs enfants, Emmanuel Macron qui va décorer Michel Sardou à l'Élysée parce qu'il a su bien parler des problématiques des hommes. On en parle avec nos GG, avec Antoine Bierce, avec Joël Dagosséry et avec Didier Giraud.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, Joël Dagosséry, coach de vie, Antoine Bierce, consultant auprès des entreprises. Nous sommes avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, à éleveur de bovins. On y va pour l'on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs. Anaïs
Sainz. Bonjour les GG, bonjour à tous. Messieurs, vous êtes un frein à la carrière de vos femmes. Oui, d'après une étude de la DRESS, les femmes passent 22 heures seules avec leurs enfants. 22 heures par semaine, évidemment, contre moins de 5 heures pour les papas. Ce sont donc les mamans qui compensent à la maison en passant 4 fois plus de temps que leur conjoint à faire tourner la baraque. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël?
On s'en fout pas.
Antoine?
On s'en fout pas.
Didier?
On s'en fout complètement.
Allez, Joël.
Je trouve que 5 heures, ça fait un petit peu peu. Enfin, moi, j'ai essayé de calculer pour moi.
Rien du tout.
5 heures par semaine, je sais pas comment c'est possible. C'est impossible sur 5 jours. Ça veut dire qu'un père, il rentre et il fait quoi? Une heure avec les enfants chaque soir, enfin à quelle heure il rentre, je ne sais pas. Je trouve que le chiffre c'est un petit peu exagéré, mais après, il est certain que nous les femmes, on passe plus de temps avec les enfants.
Et pourquoi?
Mais parce que tu sais, il y a aussi parce qu'on le veut bien. Je vais te dire. Moi, je me rappelle quand je suis passée au 4/5e dans mon quand j'étais encore salariée parce que je faisais les grandes gueules et au début des grandes gueules, je quittais l'émission et j'allais travailler juste après. Puis après, je suis partie voir mon employeur et je lui ai dit écoute, c'est plus possible. Moi, je vais passer au 4/5e, je vais pas venir travailler après l'émission. Voilà. Et il m'a dit mais Joël, vous n'y pensez pas, vous n'allez pas rester chez vous, qu'est-ce que vous allez faire, vous allez rester avec les morts, avec les gosses à la maison. Et je me suis dit mais en fait, aucun homme ne ferait ce choix et la plupart du temps, c'est nous qui faisons le choix de faire les 4/5e, mais les hommes enfin et moi j'ai interrogé mon chéri, il m'a dit mais même pas en rêve. Enfin, il ferait jamais ce choix. Donc moi je me suis dit que
rester à la maison c'est ne rien faire. C'est surtout ça déjà.
Bah déjà pour eux.
Oui, pour eux.
Et puis non, ils ont pas envie de rester à la maison et moi je me suis dit que je me suis posé la question de pourquoi nous on faisait ce choix du 4/5e et je me suis dit qu'on devait se déculpabiliser de ça et de ne pas aller vers
vous êtes mère, et être mère et père, c'est différent.
Tu t'en fous, je te rappelle.
Non
mais Antoine,
alors je m'en fous pas en vrai mais
il y a probablement une inégalité mais est-ce que cette inégalité ne peut pas être souhaitée? Moi, j'ai dans mon entourage un exemple de papa qui est resté à la maison pendant que la maman allait travailler. J'ai un exemple de papa et maman, c'est le papa qui s'occupe de l'enfant le matin, qui va un peu plus tard au boulot et c'est la maman qui s'en occupe le soir. J'ai aussi des exemples de maman qui travaille pas parce que c'est leur choix, etc. Donc, ce décalage en termes d'heures à la maison avec les enfants, il n'est pas forcément subi.
Tout à
et donc,
fait.
Arrêtons de vouloir tout le temps faire l'égalité à tout prix. parfois, il y a des couples où ça fonctionne et où les gens ont choisi cette situation.
Enfin, quand ça fonctionne
même,
bien.
Il y a quand même des stats où majoritairement, c'est quand même voilà, les femmes mais aujourd'hui.
Est-ce que c'est un problème?
Oui. Mais...
Le seul sujet, c'est que on ne sait pas si elles l'ont souhaité.
Tu avais bien commencé, mais tu termines mal,
non,
Antoine. Est-ce que c'est un problème?
Attends, est-ce que c'est un problème si elles l'ont souhaité? Si c'est un deal.
Mais moi, je suis plutôt subi. Sur la position d'Antoine. Moi, je recherche pas une égalité. Enfin, la recherche de l'égalité du 50-50.
Sauf que les stats montrent que c'est plutôt subi, quoi, quand même.
Oui, il y a aussi dans l'eau un choix.
Tu te fais culpabiliser si t'as un père qui a passé de temps avec tes gosses. C'est ça qui est juste insupportable. Moi, il y a une période de ma vie où je partais au boulot, mes gosses n'étaient pas levés, je rentrais du boulot, mes gosses étaient couchés.
Pensez à moi, c'est les papas qui ont charbonné.
Et tu vois, en mon fort intérieur, aujourd'hui que mes enfants sont grands et sont partis de la maison, je me dis, j'ai loupé un truc, ok, mais je vis avec ça. Ouais. Mais le poser sur la place publique tel que c'est posé là, et faire culpabiliser les pères en disant, vous êtes des, comme tu l'as présenté Anaïs, vous êtes des salauds, vous vous occupez pas de vos gamins, je trouve que, tu vois, ça nous emmène vers le sujet d'après, je trouve que des fois Michel Sardou a raison.
Il n'y a pas que les pères qui culpabilisent, il y a aussi les mères. Moi j'ai été pendant très longtemps, j'ai pas emmené ma fille le matin à l'école, j'étais pas là pour aller la chercher, c'était plutôt son père qui faisait ça, et du coup... On me faisait culpabiliser parce qu'on se disait, mais bah, elle est jamais devant l'école, elle est jamais. Mais moi, j'avais pas envie, enfin, voilà.
On enchaîne.
T'as des fois pas les moyens.
Vas-y, Gégé, Anaïs.
Vous vous souvenez de cette bouteille de vin à.
Ah non, attends, on va parler de Sardou. Continue sur Sardou.
Ah bon?
Mais oui, vas-y.
Bon, Michel Sardou, qui va être décoré de l'Ordre national du mérite par Emmanuel Macron. Bon, bah, on s'en fout pas, mon cher Didier.
Non, enfin, moi, j'aime bien Sardou.
Antoine.
Excellent chanteur, c'est lui qui devrait chanter au JO.
Joël, on s'en fout pas. Bon, vas-y,
non mais rien de plus à dire. Après que Macron l'en fasse des tonnes sur le fait, tu vois, c'est le balancier qui va dans l'autre sens. Que Macron l'en fasse des tonnes sur le fait que Sardou a rendu leur dignité aux pères et aux hommes. Est-ce que ça vaut vraiment ça? Voilà, il décore Sardou,
Ce qu'a dit un proche du président au Nouvel Obs, hein, il a su diagnostiquer Michel Sardou des décennies avant Michel Houellebecq le mal-être masculin dans ses textes. Joël.
C'est sûrement vrai.
Je pense qu'on en fait des tonnes avec Michel Sardou, vraiment, ras la casquette. Enfin, c'est devenu le nouveau Johnny. Comme Johnny n'est plus là, on en a trouvé un nouveau, il y a Michel Sardou.
C'est quand même un monument.
Mes parents avaient les 45 tours de Michel Sardou, donc moi j'aime bien Michel Sardou. Mais je veux dire, on en fait des tonnes maintenant, c'est devenu celui qui va sauver la masculinité française, la France de manière générale, les valeurs de la France. Enfin, c'est un très bon chanteur, il a fait la carrière qu'il a, et je pense qu'il a été multiples fois décoré, on pouvait trouver quelqu'un d'autre à décorer. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas d'urgence à aller décorer Michel Sardou. Hein.
De l'ordre du commandeur de la Légion.
Ouais. Après, faut se rappeler aussi, enfin, il y avait un formidable documentaire sur lui il y a 15 jours. Faut se rappeler aussi qu'il a chanté des trucs qui ont suscité des émeutes, quand même. Oui. Hein, ça suscitait des émeutes et que lui dit. Mais moi, je le chantais, c'est pas ce que je suis. Oui. C'est pas l'homme que je suis. Quand il chantait
pour la peine de mort,
par exemple, il dit, mais moi, c'est pas ce que je pensais. Je relatais un fait de société et je chantais un fait de société.
Et donc, en fait,
dire
que
je suis moi, quoi. Voilà.
Dire aujourd'hui qu'on l'élève parce qu'il a su traduire le mal-être masculin,
c'est idiot.
Attendez. Il y a 15 jours.
C'est une récompense pour l'ensemble de son œuvre, mais pas pour des textes qui qui sont une interprétation.
Il y a 15 jours, Emmanuel Macron voulait qu'on déifie Aya Nakamura. Moi, je suis quand même content qu'aujourd'hui, on soutienne un vrai monument de la chanson française.
De la décorer,
Il y avait Johnny, il y a Sardou. Moi, c'est les deux chanteurs dont je suis le plus fan. Les chansons de Sardou, ça sent la France, ça sent la beauté de notre pays, c'est puissant, il y a quelque chose. Donc, moi, c'est juste que je ne comprends plus dans la tête de Macron. Il y a 15 jours, il aimait Aya Nakamura, maintenant, il aime Sardou. À mon avis, c'est
pas très clair. Quand tu chantes au temps béni des colonies, oui, ça sent la France, oui, effectivement.
Ça sent bien la France. Au temps béni des colonies, précisément, il ne le défend pas, hein, tu vois. À mon avis, regarde bien les paroles.
Je pense
qu'il le défend.
Il y a plein de chansons de Sardou.
Oui, non, mais j'entends bien. Mais...
On enchaîne. Anaïs.
Donc, les GG, vous vous souvenez de cette bouteille de vin à 1,66€ 1,66€ seulement chez Carrefour qui avait provoqué la colère des viticulteurs. Carrefour s'était engagé la semaine dernière à retirer de ses rayons cette promotion. Eh bien non, ce Bordeaux est toujours vendu à moins de 2€ dans les supermarchés de l'enseigne. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Didier ?
On s'en fout pas du tout.
Antoine ?
On s'en fout pas.
Joël ?
On s'en fout pas.
C'est BFM TV en fait qui a fait le constat hier dans un des magasins Carrefour. On rappelle que les prix rémunérateurs, Didier, sont l'une des préoccupations du monde agricole. Hein.
C'est pire que ça. Moi, je serais curieux qu'on aille faire des analyses dans cette bouteille de vin, quoi. Est-ce que c'est vraiment
du pinard? C'est exactement ce que je voulais dire. Comment ils arrivent à ce pinard?
Ça pourrait être quoi alors?
Hein? Bah, c'est des coupages, de la flotte, de la chimie, de la, tout ce que tu veux, mais y compris du pinard dedans. Mais moi, j'ai de vrais doutes quand t'arrives à ces tarifs-là sur le fait qu'il y a encore un mec qui va tailler de la vigne et qui ramasse des raisins, quoi. Hein. J'ai un vrai doute. Et après, il faut aller s'attaquer à ces grosses boutiques qui fournissent ce genre de promotion, quoi. Parce que derrière ça, il y a un importateur, un je sais pas quoi, qui fait des coupages, des mélanges dans des, enfin. Parfois, tu vois, des mecs en cagoulé qui vont péter des cuves, tu vois, ça, on est toujours un peu à la limite du syndicalisme, de la loi, tout ça. Mais derrière ça, il y a ce qu'on appelle des négociants en vin, qui sont des mecs qui sont des traders plus que des fabricants de vin, et puis qui achètent des lots en Amérique du Sud, en machin, en truc, en bidule, qui font des assemblages et qui balancent du vin à 2 euros la bouteille. Ça, et à un moment donné, occupons-nous de cela, quoi, hein.
Des règles, si le produit est surveillé, etc., que c'est pas du
pipo,
que c'est du vrai vin et qu'on est sûr,
mais je vois pas comment il arrive.
Chapeau à celui qui arrive à le produire à ce prix-là.
Non,
je vois pas comment il arrive.
Alors en fait, ils disent que c'est du vrac et que derrière le distributeur renonce à ses marges et puis économise aussi, par exemple, sur le bouchon, sur les étiquettes et autres. Quoi. Voilà,
c'est et c'est un vrai Bordeaux. C'est pas un mélange chez eux.
Non, c'est un vrai Bordeaux.
Une AOP.
Pour moi, un Bordeaux, Bordeaux et du vin en général, mais un Bordeaux en particulier, ça ne devrait absolument pas être à moins de 2 euros. Enfin, pour moi, c'est un scandale sur deux raisons. Déjà, ne serait-ce que
pour le travail des Bordeaux.
Déjà, l'alcool comme ça, pas cher, des bouteilles de vin pas cher, déjà, c'est un scandale dans un pays quand même où on meurt encore de l'alcoolisme. Et la deuxième chose, c'est que en France, on n'a plus beaucoup d'industrie. Et s'il nous reste un truc, c'est un peu cette industrie, le vin, le luxe. C'est encore ce par quoi on est reconnu qualitativement. Si toi-même tu viens tuer ton image de marque en mettant ça à moins de 2 euros, en disant bah écoute, finalement c'est pas si bon que ça, notre vin de Bordeaux il a moins de 2 euros. Enfin, je suis désolée, je comprends pas cette logique.
Le mec qui a côté vendu du Bordeaux à 25 euros la bouteille, oui, comment il fait pour exister?
Il y a toujours eu le trop pas cher que certains boivent, etc. C'est pas nouveau. Et donc en fait. Moi, j'aimerais vraiment qu'on analyse ce vin, quoi. S'il est correct, s'il n'y a pas de triche.
Après, c'est la liberté de l'acheteur et du consommateur.
Exactement, exactement.
Tu rémunères quoi avec 2 euros? Tu rémunères qui avec 2 euros?
Mais j'en sais rien, mais à la limite, si jamais ça respecte nos règles, eh ben, ils ont le droit. C'est que nos règles ont un problème, si alors on peut sortir du vin à ce prix-là. Mais donc, ne regardons pas toujours en bout de course.
Si, parce qu'après, ils te font des campagnes. Nous, on soutient les agriculteurs. Nous, on soutient les producteurs. Et ils te font un truc à moins de 2 euros. Non, je suis désolée, tu rémunères qui avec ça?
Ils s'achètent une image aussi, quoi. Les grandes surfaces s'achètent aujourd'hui une image avec les têtes de producteurs.
Là, c'est l'image sur l'inflation.
Moi, j'ai de vrais doutes que ça soit un Bordeaux à hausser, quoi. J'ai quand même de vrais doutes, quoi.
Allez, à suivre dans les GG. Merci Anaïs Sainz. À suivre dans les GG dans les grandes gueules. Tiens, puisqu'on parlait Bordeaux, parlons campagne tout à l'heure à 10h20. Il a fallu en passer par la loi pour empêcher ce qu'on appelle les néo-ruraux, c'est-à-dire les urbains qui s'installent à la campagne, d'arrêter d'emmerder les agriculteurs. En fait, maintenant, il y a une loi qui va faire qu'ils ne pourront pas porter plainte contre les agriculteurs pour tout, si le tracteur fait trop de bruit, si les animaux font trop de bruit aussi. Donc, est-ce que finalement, aujourd'hui, ceux qui s'installent à la campagne, les néo-ruraux, c'est pas le cauchemar des campagnes? 32-16 pour en parler avec les G, mais dans un instant. Al-Qaïda qui menace, enfin Daesh plutôt, qui menace les matchs de foot et notamment du Parc des Princes ce soir, la Ligue des Champions. Très franchement, est-ce que ces menaces terroristes, ça pourrait vous dissuader d'aller au stade ce soir ou dans les stades d'une manière générale? Vous venez en discuter au 32-16.